chers auditeurs, chères auditrices, il arrive que dans l'histoire des sociétés humaines, une année puisse être considérée, sinon comme plus heureuse, du moins comme moins troublée que celle d'avant et d'après. Si, par exemple, l'année que nous vivons actuellement ne semble pas avoir beaucoup de chances d'être jamais rangée dans cette catégorie, il se peut en revanche que pour le monde grec, pour Athènes en particulier, l'année 278 avant Jésus-Christ puisse être tenue pour un moment de paix et même de relatif bonheur. En tout cas, dès la fin de l'hiver de cette année-là, une coalition d'États de la Grèce centrale, appuyée par des contingents royaux, avait réussi à écarter la terrible menace de l'invasion celtique, parvenant à vaincre, finalement, ces Galates qui, une année plus tôt, avaient tout balayé sur leur passage à travers la Macédoine, laissant ce grand pays sans défense et même sans roi. Quel soulagement donc pour tous les Grecs, y compris ceux dont la cité n'eut pas la possibilité ou la volonté de participer à l'effort commun. Que de fait, à commencer par celle des Soteria, instaurée très peu après, à Delphes même, dans le cadre et au sein de l'Amphictyonie, cette association ancestrale de 12 peuples, notée ici sur cette carte, à qui était confiée l'administration du sanctuaire pythique, comme aussi, on l'oublie trop souvent, du petit sanctuaire d'Antella, ici, sanctuaire de Déméter, situé au voisinage immédiat de ce défilé des Thermopyles, juste au sud, où l'avance des barbares, justement, avait été pour un temps arrêtée avant leur défaite aux portes même de Delphes. Membres aussi de l'Amphictyonie, ayant par ailleurs bravement contribué, on s'en souvient, au succès des coalisés par l'envoi d'un fort contingent de cavaliers, les Athéniens ne furent pas en reste, quoi qu'on en ait dit, pour célébrer cette éclatante victoire. Ils passèrent commande à un certain Olbiades, nom de bon augure, puisque dérivé de Olbios, heureux, d'une peinture destinée à immortaliser l'exploit de leur chef, Callippos, fils de Moïroclès d'Eleusis, et ils introduisirent peut-être à cette date, dans le concours des Grandes Dionysies, une nouvelle épreuve dramatique, on l'avait vu, celle des tragédies, des comédies, aussi des drames satiriques dites anciens ou anciennes, plutôt ici palaiaï, ces pièces tirées du répertoire classique, tragédie d'Euripide par exemple, comédie de Ménandre, qui jouissaient dès alors d'une grande renommée jusque très loin d'Athènes. Telle est du moins l'hypothèse tout récemment émise par une jeune chercheuse qui connaît bien le monde du théâtre antique. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'été 278, pour la première fois, Proton, depuis la libération d'Athènes en 287, en fait depuis 12 ans, puisque la dernière célébration pentétérique remontait à l'année 290, Athènes put organiser ses grandes panathénées. L'événement, certes, n'avait pas de rapport direct avec la victoire sur les Galates. Il était simplement la conséquence, jusqu'ici méconnue, de la réunification survenue en 281 de la ville et de son port, qui se trouvait à nouveau dans le même tout, ento autoi, condition sine qua non, on l'a vu, pour pouvoir honorer la déesse tutélaire et fondatrice de la cité tout entière, Athéna Archegetis Thespoleos. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la liesse populaire de cette fête politique autant que religieuse dut être décuplée par l'exceptionnelle félicité du moment présent. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, les Athéniens eurent connaissance peu après d'une nouvelle qui dut être accueillie, sinon avec de réelles effusions de joie, du moins peut-on supposer, sans s'aventurer beaucoup, comme globalement positive, dit-on. Oui, à la fin de 278, ou peut-être mieux, au début de 277, le roi Antigone Gonatas, de retour de sa fameuse expédition en Asie mineure, se trouvant aux confins orientaux de la Macédoine, c'est-à-dire en Thrace, réussit à mettre en déroute, près de la ville de Lysimacheia, que vous voyez par là, en Chersonèse de Thrace, ces tribus celtes qui, depuis 2 ans, occupaient son pays ravagé et parvenant à les expulser vers l'Asie. Auréolé de ce succès, il put dès lors songer à récupérer le trône paternel. Sur l'impression faite en Grèce par cette nouvelle de grande portée, on possède un témoignage d'une ancienneté incontestable et d'une authenticité rigoureuse, mais dont l'interprétation n'a pas fait l'unanimité parmi les historiens. Vous avez ce texte dans le dossier. Dans ses vies des philosophes illustres, Diogène Laërce nous a en effet conservé un décret de la cité d'Érétrie, en Eubée, qui, sur proposition du philosophe et homme d'État Ménédème, félicite le roi Antigone pour sa victoire sur les Galates à Lysimacheia, suivi d'un heureux retour dans sa patrie, Eisten Idian, après la victoire, donc Nikesas tous Barbaros, etc. Et lui octroie des honneurs dont le détail nous échappe, car cet auteur, comme déjà sans doute le biographe contemporain Antigone de Caristos, à qui il doit certainement la connaissance de ce très précieux document, Diogène Laërce, disais-je, s'est borné à la partie essentielle du décret, n'a pas cru bon d'en citer le dispositif, ce qui exclut, se contentant de caractériser, ce qui est important, le décret comme psephisma aplunt ekai a kolakon, un décret tout simple et sans flatterie, ce qui exclut que la récompense décernée au roi ait été bien considérable. Rien à voir en tout cas avec ce que naguère encore, vous en souvenez, Athènes avait pu octroyer au père et au grand-père de cet Antigone. Pourtant, les historiens, qui sont gens méfiants et ont fondamentalement raison de l'être, bien sûr, n'ont pas voulu croire à la sincérité des Érétriens. Tout cela ne serait que gratitude obligée et courbette diplomatique, s'expliquant trop bien par le fait que la cité d'Érétrie était restée au pouvoir des Antigonides et qu'elle n'avait donc pas sa pleine liberté. Ayant même été très probablement obligé, nous assure un récent auteur, car les historiens ne manquent pas non plus d'imagination, d'envoyer un contingent se battre aux côtés du roi. Cette hypothèse, en réalité, ne repose sur rien, puisqu'il n'y a pas trace de la moindre présence de soldats grecs dans l'armée d'Antigone à Lysimacheia. J'ai pu montrer tout au contraire, en divers travaux, que les Érétriens étaient alors ici donc, une cité constituée alors une cité parfaitement indépendante du souverain macédonien, lequel ne conservait en Eubée qu'une seule place, évidemment une position stratégique sur le RIP, la forteresse de Chalcis. Dès lors, qu'on le veuille ou non, il convient de tenir le décret en l'honneur d'Antigone pour ce qu'il prétend être, au moment où il a été voté, sur proposition du plus sage des citoyens d'Érétrie. L'expression d'une immense ou d'un immense soulagement et d'une évidente gratitude envers ce jeune roi qui, par sa victoire, mettait la Grèce définitivement à l'abri de l'invasion celtique. Car personne, en 277, ne pouvait imaginer la succession de vicissitudes qui allait entraîner Antigone à devenir l'ennemi des cités grecques ou de plusieurs d'entre elles et le fossoyeur de leur indépendance comme de leur régime démocratique. Après ce crochet par Érétrie, qui n'est après tout qu'un jour de marche d'Athènes, et à quelques encablures de la forteresse de Ramnonte, ce n'est donc pas un autre monde. Interrogeons-nous sur la façon dont les Athéniens purent bien réagir, eux, à l'annonce de la déroute galate à Lysimacheia, où l'on fit, nous dit Justin, le grandiloquente abréviateur des histoires de Trogue-Pompée, livre 25, 2, un tel carnage des Gaulois, tantaque caedes gallorum fuit, que le bruit de cette victoire assura de tous côtés la paix à Antigone, ut Antigono pacem opinio uius victoriae praestiterit. Était-ce pour Athènes un bien ou un mal? On ne sera pas trop surpris d'apprendre que les savants ont été en désaccord sur ce point comme sur tant d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que le clivage, là aussi, est fonction de la manière dont on a successivement reconstitué l'histoire d'Athènes dans la décennie consécutive, justement, à la victoire d'Antigone à Lysimachéa. Deux écoles, en fait, s'affrontent, disons mieux, s'affrontaient. Celle ancienne, traditionnelle, de Ferguson, dans son Hellenistic Athens, 1911, celle beaucoup plus récente, de Habicht, depuis 1979. Un document épigraphique paraissait apporter à Ferguson, comme aussi à William Tarn, auteur en 1913 d'une somme qui n'est pas vraiment remplacée sur le roi Antigone Gonatas, la preuve, pour eux, donc, que que les Athéniens avaient manifesté des sentiments tout à fait semblables à ceux qu'exprimait le philosophe Ménédème au nom de ses compatriotes d'Érétrie. En effet, un décret attique, 667, Syloge 401, honore l'Athénien Héracléitos du Dème d'Atmonon, qui, entre autres services, fait à Athénanikè la consécration, anatitesi, de peinture, graphas, reviendra, pour conserver en mémoire, hypomnémata, les actions accomplies par le roi contre les barbares pour le salut des Grecs, hypertestone hellenon soterias. Texte remarquable où l'on a reconnu de longue date une allusion au succès royal à Lysimachéa, puisque seule la mention d'un roi, to basilei, à la ligne 5, restitué, pouvait rendre compte du martelage en profondeur subi par cette stèle à cet endroit et ailleurs. Vous voyez, la stèle a subi en trois endroits un martelage très extrêmement vigoureux. Peu importe sur le plan historique et même idéologique que Graphas, je reviens, à la ligne précédente, ne soit pas assurée et qu'elle ait même toute chance, à vrai dire, de devoir céder la place au mot stellas avec la même désinence et le même nombre de lettres proposé en 1962 par le professeur Nicolaos Kondoleon. Car la signification générale du document n'en est guère affectée, qu'il s'agisse en effet de peinture, graphas, ou plutôt de chronique gravée sur des stèles. On avait de toute façon affaire, pensait-on, il y a un siècle, à un monument commémoratif dressé vers 274 à l'initiative de cet Héracléitos, puisque la date paraissait aussi découler de la mention, ligne 2, qui est faite des Panathénées, dont la première célébration, alors après Lysimachéa, tombe effectivement en 274. On aurait affaire ainsi à un témoignage de premier ordre sur la situation politique d'Athènes au milieu de la décennie 280-270, période particulièrement mal connue. De l'avis général, alors, il en ressortait que les Athéniens ne devaient bénéficier alors que d'une très faible marge de manœuvre vis-à-vis du roi de Macédoine, puisqu'ils avaient dû accepter qu'un des leurs pût consacrer dans le temple d'Athéna Niké, à l'entrée de l'Acropole, une œuvre d'art ou un mémorial célébrant un événement purement royal et non pas du tout civique, la cité elle-même n'ayant eu aucune part à cette victoire. On se trouvait ainsi acculé à penser, et telle était bien l'opinion exprimée à la fois par Ferguson et par Tarn, ces deux classiques de l'historiographie moderne, que le roi Antigone Gonatas était alors le maître d'Athènes, qu'il en avait fait, après Pella, sa seconde capitale, le centre culturel de son royaume, en même temps que sa résidence secondaire, si l'on ose dire, puisque ce prince cultivé n'aurait manqué aucune occasion pendant toute cette période de venir s'entretenir avec les philosophes sur les avantages respectifs de la royauté et de la démocratie, y envoyant même l'un de ses jeunes fils, le jeune Alcyoneus, pour parfaire son éducation, bref, agissant à la manière de sa très gracieuse majesté, au sein d'une espèce de commonwealth hellénique, ou, pour risquer une autre comparaison, en pratiquant une sorte d'entente cordiale, expression à la mode, alors, on le sait, en ces années d'immédiate avant-guerre de 14, et qui figure, de fait, chez les deux auteurs anglo-saxons. Tarn ne se démarquait de Fergusson que par le souci, en principe louable chez un historien, de tenir compte de tous les indices, fussent-ils parfaitement contradictoires, ce qui l'amena à substituer au tableau, somme toute, assez simple, brossé par Fergusson, une histoire pleine de rebondissements. En effet, si Athènes, chez Fergusson, restait fidèle à Antigone jusqu'en l'an 266, date où elle aurait fini par vouloir tout de même secouer cet encombrant patronage, l'auteur de Antigonos Gonatas estimait quant à lui que les Athéniens avaient dû se détacher du roi une première fois vers 274, à l'époque du conflit avec Pyrrhus, on y reviendra, pour retomber en son pouvoir vers 270 et se soulever à nouveau contre lui 4 ans plus tard. Telles auraient été donc les péripéties qui, selon ces deux historiens, et à quelques variantes près tout de même, menèrent à la guerre dite de Crémonides. Cette vision de l'histoire d'Athènes a eu la vie dure, refaisant parfois surface, inopinément, jusque dans des travaux récents ou très récents. Pourtant, dès la fin des années 20 du siècle passé, surtout à partir de 1933, avec l'ouverture du chantier de l'Agora d'Athènes et la trouvaille de nombreuses inscriptions nouvelles, des épigraphistes de diverses nationalités, surtout en l'occurrence l'Américain William Dinsmore, montrèrent que les bases mêmes de cette plus ou moins idyllique reconstitution des rapports entre Antigone et Athènes se dérobait complètement, compte tenu des progrès réalisés dans la datation des documents du milieu du IIIe siècle. On prit donc assez rapidement conscience que le fameux décret, j'y reviens, relatif aux stèles ou aux peintures commémoratives de la bataille de Lysimachéa ne pouvait pas dater de 275 environ, mais devait être placé à l'évidence vers 250 seulement, vu que le personnage honoré, Héraclitos d'Atmonon, réapparaissait, on le savait depuis longtemps, et cette fois en tant que préposé à la surveillance du Pirée, dans un décret des Salaminiens, que tout obligeait à placer à un moment déjà très avancé du règne d'Antigone Gonatas, vers 250, on verra cela dans la prochaine leçon. Ce n'est donc pas au lendemain de Lysimachéa que cet Athénien, tout dévoué à la cause macédonienne, avait pris l'initiative de célébrer les exploits accomplis par le roi. Mais bien plus tard, à une époque de stricte domination macédonienne sur Athènes. Ainsi s'expliquait, par exemple, que le nom du roi figura dans le décret avant même la mention, ici, ligne 13, avant même la mention du conseil et du peuple d'Athènes, chose qui n'est attestée précisément que pour cette période de suggestion entre environ 262 et 229. Et c'est pourquoi cette ligne fut en partie martelée quand, en l'an 200, Athènes décida de faire disparaître tout ce qui pouvait évoquer les périodes de tutelle antigonide. On s'explique très bien aussi le martelage donc de Basileï, dans les deux cas, 13 et ligne 5, ce mot Mazilène qui fut restitué avec beaucoup de sagacité, puisqu'il n'en restait rien sur la stèle, par l'épigraphiste Ulrich Köhler en 1890 déjà. On comprend beaucoup moins, un peu moins bien, me semble-t-il, même si cela n'a apparemment dérangé personne depuis un siècle, la raison d'être du martelage de la ligne 8, puisque c'est un mot bien inoffensif, tois eierge tais, qu'à en croire tous les éditeurs et commentateurs, il faudrait restituer en cet endroit. En réalité, et il est peut-être temps d'en s'en apercevoir, c'est un mot bien plus compromettant, je pense, qu'on a dû vouloir faire disparaître en l'an 200 sous les énergiques coups de ciseaux du lapicide qui fut chargé d'épurer les stèles publiques de l'agora de toute mention royale. Ce mot, vous l'avez trouvé, c'est tout simplement « tois basileucin » qui fournit le nombre requis de lettres et convient parfaitement à aussi à l'esprit, ce qui est encore plus important, de ce décret des alentours de 250 avant Jésus-Christ, proclamant la reconnaissance de la cité à l'égard des rois ancêtres d'Antigone. Pour l'époque même de la bataille de Lysimachia, un quart de siècle plus tôt, il n'y a donc désormais plus la moindre trace d'un état de sujétion d'Athènes vis-à-vis de la Macédoine. C'est ce que Christian Habicht a établi dans son livre de ses études de 1979, d'une manière qu'on peut espérer définitive, en montrant que tous les documents attiques datables de la fin des années 270, ainsi le beau décret souvent examiné pour Callias de Sphétos et celui pratiquement contemporain pour le patriote Démocharès de Leuconoé, proclament à l'envi l'indépendance absolue d'Athènes, chose que prouve par ailleurs la présence constante durant toutes ces années-là d'un Hiéromnémon athénien à l'Amphictyonie de Delphes. De même, il a fait voir que les témoignages littéraires, surtout Diogène Laërce, qui attestent des relations de confiance entre le roi Antigone et les philosophes enseignant alors à Athènes, se rapportaient tous, sans exception, à l'époque consécutive à la capitulation de la cité en 262. Bref, c'en était fait de la fameuse entente cordiale, chère aux historiens d'avant 1914 et à ceux qui les ont aveuglément et trop longtemps suivis. Mais alors, dira-t-on peut-être après tout cela, comment, j'en reviens à la question, comment les Athéniens réagirent-ils à l'annonce du succès d'Antigone sur les Galates à Lysimachia ? Envoyèrent-ils au roi un message de félicitations ? Lui firent-ils part aussitôt de leur sincère soulagement à la manière des gens d'Érétrie, ville qui était aussi, on vient de le voir, une cité parfaitement indépendante à cette date. En fait, dans l'état actuel de la documentation, sauf erreur de ma part, on ignore complètement quelle fut leur réaction. Chose notable, toutefois, Habicht a écarté avec décision, dans sa récente synthèse, la possibilité même que l'accueil fait à cette nouvelle par les Athéniens ait été tant soit peu positif. Vous avez le texte sous les yeux. À Athènes, écrit-il page 153 dans la traduction, après avoir évoqué justement la bataille de Lysimachia, on ne put voir qu'avec inquiétude le fils du roi Démétrios, qui entretenait depuis 10 ans une garnison au Pirée, établir désormais fermement son pouvoir royal dans le pays d'où son père avait été chassé 11 ans auparavant. Fin de la citation. Ô combien cette phrase est lourde d'implications. Elle suppose en effet qu'un grave contentieux subsistait alors entre le roi et la cité, qui n'aurait pu alors que redouter le jour, forcément assez proche, où Antigone allait disposer des mêmes ressources économiques et des mêmes moyens militaires pour mettre à nouveau Athènes sous sa tutelle. Mais il convient de faire observer deux choses à cet égard. C'est d'une part qu'en 277, la situation d'Antigone était encore bien loin de faire de lui un prince réellement menaçant pour la sécurité d'Athènes et des cités grecques de la péninsule balkanique. Lui qui, certes, put se rétablir, effectivement, dès 276 sur le trône de Macédoine, mais en fut chassé peu après, en 274, par le roi Pyrrhus d'Épire, venant de l'ouest, revenu tout auréolé de gloire de son expédition d'Italie et de Sicile. D'autre part, et surtout, la permanence de l'occupation du Pirée en ces années, toujours très présente dans l'esprit du grand historien de Princeton, relève plus que jamais du domaine de l'hypothèse et doit être abandonnée. On l'a vu maintenant que toute une série d'indices convergents paraît établir la réunification du port et de la ville dès l'été 281 et l'abandon un peu plus tard de la forteresse de Munichib par la garnison macédonienne. Au moment de l'invasion celtique, en tout cas, Athènes était entièrement libre. Dès lors, il ne faut point exclure du tout, à mon avis, que les Athéniens aient salué eux aussi avec joie et soulagement la déroute des Galates à l'Isimakeia. Tant était encore présente partout la crainte face aux Gaulois, le metus gallicus des Romains chez Tite-Live. Ce sentiment a fort bien pu l'emporter alors sur toute autre considération, la menace que pouvait représenter à terme l'ambition du jeune roi victorieux était encore bien théorique. Il est vrai qu'un texte a paru fournir, depuis un siècle, une base solide à la conviction que le Pirée, vers 273, demeurait toujours aux mains des Macédoniens. Et il s'agit ici encore d'un passage de la vie de Ménédème, que vous avez dans votre dossier, cette vie qui s'avère être une source de premier intérêt pour l'histoire de cette époque, insuffisamment éclairée par le récit très imprécis de Justin et par les notices discontinues de Pausanias. Car il arrive que par le biais d'une anecdote, une simple anecdote, Diogène Laërce vienne apporter un éclairage original. Dans une série de bons mots prêtés à Ménédème, lequel ne s'embarrassait pas de circonlocutions pour exprimer les réalités les plus crues, le biographe rapporte donc que le philosophe eut un jour, sous les portiques du sanctuaire d'Amphiaraos, en face d'Érétrie, un entretien avec Hiéroclès, commandant du Pirée, ô épi tou Piréos, qui lui parlait en long et en large de ce que le roi Antigone comptait faire pour prendre Érétrie, perites alloseos tes Érétrias. Alors, mettant un terme assez brutal à cet exposé politico-militaire, Ménédème aurait demandé à cet officier d'Isère, ou peut-être vantard, si, pour connaître tant de secrets d'État, il couchait avec le souverain. Cette anecdote, un peu salace, mais dont rien ne permet de révoquer en doute l'authenticité fondamentale, a joué chez les érudits un rôle que sa verdeur ne laissait pas prévoir. Et cela surtout depuis qu'en 1927, dans la deuxième édition de sa monumentale Griechische Geschichte, l'historien Bellor, tirant argument de la chronologie amphictyonique, delphique, dont il avait jeté les bases 20 ans plus tôt à la suite des découvertes faites à Delphes par les archéologues français, Bellor donc pensa pouvoir montrer que l'entretien de Ménédème à Oropos avec l'officier Hiéroclès devait nécessairement se placer en 273. Il observait en effet que le représentant d'Érétrie au conseil amphictyonique en 274, sous Arakleidas, était le philosophe Ménédème en personne, tandis que celui-ci était remplacé l'année suivante par Aisculos, 273, en qui il fallait à l'évidence reconnaître un des principaux adversaires politiques de l'homme d'État érythréen, Antipolitoïoménos Ménédémon, au dire de Diogène Laërce lui-même, personnage dont on possède d'ailleurs maintenant un certain nombre de mentions épigraphiques. La succession de ces deux hommes à Delphes impliquait, selon Bellor, qu'une révolution s'était produite à Érythrée dans l'intervalle, à mettre en relation avec la situation troublée de la Grèce à ce moment-là. Médémem, en tant que partisan présumé d'Antigone, puisqu'il avait été son maître à penser, avait dû partir en exil. Or, d'après le biographe, c'est précisément à Oropos qu'il s'était réfugié, trouvant asile à l'Amphiaraïon, où eut lieu, peu après, la rencontre avec l'officier Hiéroclès, donc vers 273. Cette très ingénieuse reconstitution a connu un vif succès et elle sous-tend, pour peu qu'on y soit attentif, bien des exposés généraux jusqu'à la grande histoire politique du monde hellénistique de ville. On comprend ainsi que Christian Habicht, en 1979, ait pensé pouvoir faire fond sur le fameux épisode de la rencontre d'Oropos entre Ménédème et le préposé à la garde du Pirée, pour affirmer qu'en 273, les Athéniens étaient toujours privés de leur souveraineté sur leur port et par conséquent, ils ne trouvèrent jamais le moyen de le récupérer tant que vécut le roi Antigone. Mais cette anecdote constituait, il faut bien le voir, le seul argument dont disposa Habicht pour soutenir sa thèse. Or, je crois avoir pu montrer dès 1991 qu'en réalité, l'exil du philosophe était postérieur à l'année 269-8, puisqu'à cette date, sous un archontat postérieur à Delphes, 269 à Tambos, on voit réapparaître Ménédème, qui avait été Hiéromnémon, et qui était toujours actif au sein de l'Amphictyonie en tant que loyal serviteur de sa cité. Dès lors, l'aimable conversation que le philosophe déjà en exil eut à l'Amphiaraïon avec l'officier macédonien au moment du siège d'Érythrée par Antigone, ne saurait avoir eu lieu qu'en 268 au plus tôt, c'est-à-dire au moment même de l'ouverture des hostilités entre le roi de Macédoine et Athènes, comme on va le voir dans un instant. Dès 1995, avec une grande honnêteté intellectuelle, Habicht a accepté cette façon de voir les choses, après que d'autres spécialistes également m'eurent donné leur adhésion. Mais l'historien allemand n'en a pas moins continué à défendre l'idée que le Pirée n'avait jamais dû échapper à la tutelle des Macédoniens durant toute cette période. Et cela, m'écrivait-il encore récemment, faute de connaître ou de pouvoir établir les circonstances dans lesquelles le port d'Athènes aurait pu retomber au pouvoir du roi dès avant l'éclatement de la guerre de Crémonides, donc vers la fin des années 270 ou le début de la décennie suivante. Certes, le délabrement des sources historiographiques, pour ces années-là précisément, la perte en particulier de tout récit suivi, digne de foi d'un historien contemporain, comme il en existait, bref, ce trou noir des alentours de 270 fait que l'on pourrait aisément ignorer même un épisode militaire d'aussi grande portée qu'une attaque surprise et réussie de la forteresse de Munichi au Pirée vers cette date. Car dans la tourmente qui précéda et surtout suivit la mort du fameux Pyrrhus en 272, beaucoup de choses purent se produire. Rappelons que le retour du roi des Pires dès 274, après ses exploits modérément productifs en Occident, contre les Romains, puis contre les Carthaginois, mit la Grèce en ébullition. C'est que, incapable de tenir en place, Pyrrhus marcha aussitôt contre Antigone et parvint à le chasser de la Macédoine, proprement dite. Comme l'écrit Justin, il médite alors de conquérir la Grèce et l'Asie. Graeciae, Asiaeque, Regna, Meditatur. Livre 25.4.1. De fait, en 273, il passe dans le Péloponnèse, plusieurs cités députèrent vers lui des ambassades alors qu'il s'avançait en direction de Sparte. Or, parmi elles figurait, selon le même historien, une députation athénienne, Legationibus Athéniensium Acheorum, etc., excipitur. Voilà un fait très grave. Qu'Antigone Gonatas eut sans doute beaucoup de mal à pardonner jamais aux Athéniens, d'autant plus que leur activité diplomatique, en ces années-là de grande confusion, ne dut pas se borner à cela. Au sein même de l'Amphictyonie de Delphes, où les cités libres comme Athènes continuaient à envoyer régulièrement un délégué annuel, la conjoncture obligeait les Athéniens à se positionner par rapport à la puissance montante des Étolies, hein, tout proche, jouxtant le site même de Delphes, qui, année après année, depuis leur fracassante entrée dans le Conseil en 278 à la suite de la victoire sur les Galates, grignotaient des sièges au Conseil par le biais de nouvelles annexions. C'était la situation à peu près vers 270 sur cette carte. Ils étaient soutenus dans cette expansion par la Confédération béotienne, avec laquelle ils s'étaient alliés par un pacte très solennel, exposé à Delphes même, qu'il m'a naguère été possible, sur la base d'une nouvelle restitution, de dater à coup sûr peu après 278. De cette alliance avec l'Étolie, les Béotiens paraissent d'ailleurs avoir tiré des fruits, puisqu'à l'automne 272, on constate qu'ils avaient trois représentants, au lieu des deux habituels, à l'Amphictyonie. Cette augmentation temporaire de leur députation doit s'expliquer par l'annexion aussi d'un territoire important à la faveur des troubles qui précédèrent la disparition du roi Pyrrhus, tombé sans gloire dans un combat de rue à Argos, justement en cet été 272. Et j'avais pu suggérer, voici quelques années, que la cité annexée alors par les Béotiens n'était autre que la place forte de Chalcis sur le passage clé, on l'a vu, passage clé de Chalcis, tout près, jouxtant la Béotie, car on a la preuve dans les inscriptions à la fois delphiques et béotiennes d'une phase d'indépendance de la cité eubéenne, qui échappe donc pendant quelque temps à la mainmise macédonienne. Or, tout cela ne pouvait manquer d'avoir une incidence directe sur la politique des Athéniens, voisins immédiats de l'Eubée et de la Béotie. Mais après la mort de Pyrrhus, la situation devint difficile pour tous les États qui avaient pris fait et cause pour le roi des pires, Pyrrhus, contre Gonatas. C'était le cas d'Athènes, on s'en souvient, qui pouvait désormais craindre une attaque du roi de Macédoine contre l'Attique depuis ce Péloponnèse dont toute la partie septentrionale était retombée sous la domination antigonide. Il était dès lors urgent pour la cité de trouver un nouvel allié. Et le seul qui fut de taille à intervenir à leur côté, si l'on excepte Sparte, dont il n'y avait cependant pas grand-chose à attendre en cas d'agression, c'était évidemment le roi Ptolémée d'Égypte, alors au fait de sa puissance. Que dès l'hiver 270-69, un projet d'alliance avec le Lagide ait été envisagé par les hommes politiques athéniens, les plus farouchement opposés à la Macédoine, on en a l'indice, généralement méconnu, parce que non explicite. C'est le fameux décret pour Callias de Sphétos, si souvent allégué pour l'histoire de la libération d'Athènes en 287 et de ses suites. Car un tel document ne vaut pas seulement par les informations qu'il nous livre sur les événements antérieurs, il est nécessairement aussi un témoignage sur l'époque même de la promulgation du décret, 6e Prytanie de l'Archonta de Sostratos, soit, et la chose est sûre, signalons-le, c'est rare, le mois de janvier 269. Cette inscription est toute remplie du nom de Ptolémée, et l'on ne parle que de l'appui apporté 15 ans durant par les deux premiers Lagides. Si donc, on a cru bon d'honorer l'excellent Callias, qui depuis des années ne faisait plus grand-chose pour Athènes dans son poste de commandement d'Halicarnasse en Asie mineure, c'est moins pour lui octroyer enfin les honneurs auxquels il avait droit que pour rappeler au grand Ptolémée que l'on comptait à nouveau sur lui ou dans un avenir très proche. Un jour, sans doute, on saura si à la date de ce décret, Antigone avait déjà réussi, comme je le croirais assez volontiers, à remettre la main sur Munichi, sur le Pirée, à la suite d'un coup de force, ou si l'événement ne survint que dans le courant de 269, voire au début de 268. Ce qui importe, c'est de comprendre que la guerre de Crémonides fut la réponse d'Athènes à cette agression. Il n'y a guère de sens, en effet, à penser que les Athéniens aient laissé passer une décennie avant de se décider à rétablir coûte que coûte leur souveraineté sur le Pirée, comme l'implique la thèse défendue par Abiche et ses partisans. Car ce serait admettre qu'Athènes a choisi le moment le plus défavorable pour ouvrir les hostilités contre la Macédoine, alors qu'elle aurait disposé, entre le retour de Pyrrhus et sa mort de 274 à 272, de la conjoncture apparemment la plus propice à la réalisation de son plan, en tirant profit justement des déboires d'Antigone, au lieu d'attendre que celui-ci ne se rétablisse sur le trône de Macédoine. Il est vrai que bien des points demeurent obscurs dans le déroulement de la guerre de Crémonides elle-même. Dès à présent, toutefois, on peut s'en faire une idée assez précise, qui ne cesse d'ailleurs de s'affiner. Rappelons que l'appellation de Crémonideios Polemos remonte à l'Antiquité, puisqu'elle était utilisée, au témoignage du sophiste Athénée, époque impériale, par l'historien Egesandros ou Egesandros de Delphes, vers 150 avant Jésus-Christ déjà, à propos de la façon dont les meneurs populaires, c'est-à-dire aussi Crémonides lui-même, ces démagoguntes, s'adressaient aux Athéniens en leur disant que si, pour tout le reste, Athènes partageait toute chose avec les autres Grecs, elle était seule à connaître le chemin qui mène les hommes vers le ciel. Ten epiton uranon anthropois ferousan odon, Athenaius eidenai monus. Mais était-ce pour louer cet homme politique ou au contraire pour le vitupérer que l'on attribuait à Crémonides la responsabilité de la guerre contre le roi Antigone? Pour en décider, il faudrait savoir si l'appellation fut forgée pendant la période même des hostilités, quand l'espoir de l'emporter sur l'ennemi était encore grand, ou si au contraire, elle ne fit son apparition qu'au lendemain de la capitulation, auquel cas elle pourrait bien avoir eu une connotation très négative chez les partisans de la Macédoine. Et une date plus tardive encore, après la libération de 229, ne saurait être exclue. Ce qui ne fait aucun doute, en revanche, c'est que ce Crémonides, fils d'Étéoclès, d'Udème d'Aïtalidaï, fut bel et bien l'un des plus ardents patriotes qui était mu, comme jadis Démosthène, par la volonté de mettre un frein à l'impérialisme macédonien. On sait en effet que c'est sur sa proposition que fut pris le grand décret par lequel Athènes décida de nouer une alliance avec Sparte et les alliés péloponnésiens et également crétois de celle-ci. Document majeur, vous avez le début dans votre dossier, quoique incomplet, progressivement reconstitué à partir de quatre fragments dans la seconde moitié du XIXe siècle. Mais avant d'examiner quelques aspects de ce décret suivi du traité proprement dit, d'où soit l'intégration de ce document dans le recueil Staatsverträge des Altertums, sous le numéro 476, rappelons brièvement que si le nom de Crémonides est ainsi passé dans la grande histoire, le nom de son frère Glaucon n'était sans doute guère moins illustre à l'époque, puisque ce personnage fut notamment, je ne cite qu'une inscription, pendant la guerre de Crémonides même ambassadeur à Gonothète, et qu'il fait l'objet d'une mention dans un traité de morale du philosophe cynique Thalès de Mégare, contemporain, comme l'exemple même de ces citoyens grecs qui, contraints à l'exil par un retournement politique dans leur patrie, parvenaient à refaire une nouvelle et brillante carrière au service d'un souverain étranger, en l'occurrence Ptolémée II, Philadelphe, comme Callias, précisément. Or, l'information fournie par ce Thalès a été en tout point confirmée, certains d'entre vous ici le savent, par la publication en 1975 d'un très beau décret, trouvé non pas à Athènes, mais à Platée, en Béotie, et émanant du Koinon des Hélènes, qui fait l'éloge justement de l'Athénien Glaucon, fils de Théoclès, frère de Crémonides, alors même que ce bienfaiteur se trouve déjà auprès du Lagide, certains même ont soutenu qu'il était mort à ce moment-là, ayant quitté Athènes à la fin de la guerre prônée par son frère, lequel du reste devait également trouver refuge à la cour d'Alexandrie. Le décret félicite donc de ce qu'il a fait et continue à faire pour la cause de la liberté des Hellènes, c'est-à-dire des Grecs hostiles à la Macédoine, qui se réunissaient périodiquement en ce lieu emblématique de la lutte contre les barbares, qui est justement le sanctuaire de Zeus Eleutherios, à Platée, théâtre de la victoire sur les Perses en 479 avant Jésus-Christ. Les éditeurs du document, mes collègues et amis de vieille date Roland Etienne et Marcel Pierrard, n'avaient pas manqué de souligner la remarquable similitude de ton existant sur le plan idéologique entre le décret de Platée et le décret de Crémonides, qui exalte l'un et l'autre la concorde entre les Hellènes contre un adversaire commun, cette homonoïa dont un culte avait d'ailleurs été instauré à Platée même. Et l'on retrouve dans l'inscription de Platée, ligne 11, cet élément si caractéristique aussi du décret de Crémonides, qu'est la référence au roi Ptolémée, dont l'appui apparaît dans le décret même de Crémonides. Vous avez le nom de Crémonides ici, hein, comme auteur de la proposition. On retrouve donc dans le décret même cette mention de Ptolémée vue comme un atout décisif dans la lutte à mener contre ceux qui tentent d'asservir les cités, de briser leur régime démocratique, tous epikeirountas, etc. Il ressort en effet des considérants très développé, vous n'en avez qu'une partie sous les yeux, du décret attique, qu'avant même de songer à nouer une alliance au nom des Hellènes, les deux parties, Athènes et Sparte, donc, avaient chacune de son côté conclu un traité séparé avec le roi d'Égypte, lequel se souciait, on le rappelle alors dans le décret de Crémonides, se souciait de la liberté commune des Grecs. Spoudazon, upertes koines, ton helenon, eleuterias. Fidèle en cela à la politique non seulement de ses ancêtres, les progonoi, mais aussi, chose bien remarquable, à celle de sa sœur. Akolutos tei ton progonon, kaitei tes adelphes, pro aeresei. Donc, de sa sœur et épouse, Arsinoé II, dont l'action importante aux côtés du roi est bien attestée par ailleurs, ne serait-ce que par de splendides émissions monétaires, là, celle où les deux rois sont présents ici à droite, les rois Philadelphes, la princesse mise en léger retrait par rapport au droit. Mais cette princesse était-elle encore vivante à l'époque du décret ou déjà divinisée, autrement dit morte? Le problème ne se posait guère tant que l'on faisait mourir Arsinoé Philadelphe en 270, car le décret de Crémonides ne saurait en aucun cas, lui, remonter aussi haut que 270. Mais la question est débattue depuis que, dans une étude très poussée sur la documentation égyptienne, l'historien germano-suisse Erhard Zibek est parvenu à rendre probable, sinon totalement assuré, que la mort de la reine ne survint en réalité qu'en juillet 268, c'est-à-dire à la veille de la guerre de Crémonides, si l'on adopte pour le fameux décret d'alliance pris sous l'archonte Peitidemos, tout début de Peitidemos, la date la plus probable, soit août-septembre 268. Ou alors celle de 269 que suggère maintenant le spécialiste qui est Michael Osborne en remontant d'une année, vous le voyez, 269-8, l'archonte Peitidemos pour introduire juste après un archonte éponyme, un archonte mal connu. Ce Diogeiton qui précéderait un groupe qui, lui, au contraire, est parfaitement bien placé et daté, les archontes Ménéclès et Nikias, 267-6, 266-5, sur ce point, tout le monde est d'accord. Et à cette époque, la guerre est déjà installée à Athènes. En faveur de sa proposition, Osborne a fait précisément valoir qu'elle permettrait de mieux comprendre le rôle joué par la reine dans la décision de Ptolémée d'intervenir en Grèce en faveur d'Athènes et de Sparte contre le roi Gonatas. Mais outre que cette datation haute de Peitidemos aurait, me semble-t-il, l'inconvénient d'allonger encore la durée de la guerre, qui effectivement ne saurait avoir pris fin avant l'année 262, elle ne paraît pas indispensable pour rendre compte de l'intervention lagide en 268, dans la mesure où le roi tenait justement, aussitôt après la mort d'Arsinoé, à respecter sa volonté politique, elle qui devait pousser son fils, un autre Ptolémée, né de son premier mariage avec Lysimaque, tout cela est affreusement compliqué, à revendiquer le trône de Macédoine. Donc les Ptolémées jouaient leur propre carte aussi dans cette affaire, il faut bien le voir. Sur le déroulement et l'issue du conflit, les sources littéraires n'étaient pas tout à fait négligeables, puisque l'on pouvait en inférer déjà et l'ampleur et l'issue du conflit. On y voyait en particulier chez Pausanias le Périégète, vous avez quelques textes dans le dossier, chez l'abréviateur Justin, que les alliés d'Athènes n'avaient pas manqué de se porter au secours de la cité. Les Lacédémoniens par voie de terre et à diverses reprises, sous la conduite de leur roi Arès, l'un de leurs deux rois, le roi d'Égypte, par l'envoi d'une flotte ou du moins d'une escadre, puisque cette intervention est attestée par les deux auteurs en question, qui nous font même connaître le nom du stratège, dirigeant l'expédition, à savoir Patroclos, lequel avait donné son nom, je crois y avoir une carte, avait donné son nom, qui subsistait dans l'Antiquité, à un îlot tout proche, je laisse tomber cela, non, pardon, voilà, un îlot tout proche du Sounion, ici, l'île de Gaïdaronissi, ou îlot de Patroclos, qui avait servi de base à l'escadre ptolémaïque pour surveiller et pour, le cas échéant, porter du blé ou attaquer des convois macédoniens, comme d'autres places qui ont été repérées archéologiquement sur la côte est notamment. Ce Patroclos, actif, mais incapable néanmoins d'engager une véritable bataille, ni non plus de briser les travaux d'investissement de la ville par l'armée d'Antigone. Maîtresse, dès le début des opérations, ça paraît à peu près certain, du Pirée, qui était placé sous le commandement de ce Hiéroclès, qui alors avait eu son entretien avec le philosophe Ménédème. Mais ce sont des documents épigraphiques qui, depuis un peu moins d'un demi-siècle, ont renouvelé progressivement nos connaissances de la guerre de Crémonides. Je signale d'abord une bien modeste inscription, mais quand même riche d'enseignements pour cette première phase du conflit. C'est une plaque d'autel avec l'inscription Arsinoès Philadelphou, trouvée sur le site d'Érétrie en 1990, dans une riche maison de cette ville, et document qui put aussitôt être mis dans une série assez fournie de plaques semblables trouvées dans diverses îles de la mer Égée ou côtes de l'Asie mineure. Or, de telles plaques attestent, comme l'avait montré naguère Louis Robert, un culte privé de la reine d'Égypte, divinisé dans les possessions lagides, seulement là. Dès lors, il fallait en déduire que la cité d'Érétrie avait reçu un appui des forces égyptiennes en 268 ou 267, juste avant d'être investie, elle aussi, par le roi d'Antigone, et de subir sa loi, toute datation antérieure étant exclue. D'emblée, donc, il m'a été possible d'émettre, avec quelques vraisemblances, l'hypothèse que c'est précisément le navarque Patroclos qui avait dû, en débarquant dans cette cité, avant l'arrivée des Macédoniens, faire connaître aux Érétriens qu'un culte de la reine défunte Arsinoé, inspiratrice de la politique des Lagides en faveur de la liberté des cités grecques, avait été instauré depuis peu à Alexandrie par la volonté du roi, son frère et époux. Le plus gros contingent d'informations nouvelles a été apporté cependant par le site de Ramnonte et la fouille de Vassilis Petrakos. Dès 1967, cet archéologue faisait connaître un document qui, à juste titre, est considéré depuis comme l'une des sources majeures de l'histoire de la guerre de Crémonides, le décret pour le stratège Épicarès. L'intérêt de ce document, dont nous avons entamé la lecture en séminaire, réside d'abord dans sa date, puisque c'est sous Peitidémos, l'archonte éponyme du traité avec Sparte, que le stratège Épicarès a été une année durant actif à Ramnonte, comme aussi sans doute dans d'autres places relevant de son commandement. On a vu comment il assura la sécurité, l'approvisionnement des troupes et de la population dans cette période de guerre, alors que l'armée ennemie était précisément dans le pays Ente Corail, comme j'ai pu l'établir en 1993, en relevant aussi la présence intéressante de ces cryptoi, de cette unité, on peut dire, d'explorateurs, une espèce de troupe de génie camouflé, désormais bien attestée à Ramnonte même. On verra tout à l'heure qu'Épicarès s'employa aussi à faire des constructions pour la troupe ou pour la population civile, ayant par ailleurs à lutter contre les pirates qui infestaient toute cette région du golfe euboïque. Et puis, in fine, très peu de lignes avant la cassure de la pierre, hein, voilà que se trouvait mentionné l'arrivée plus ou moins inopinée de ce Patroclos, le navarque égyptien connu par les textes littéraires, que le stratège Épicarès s'était efforcé d'accueillir au mieux de ses moyens dans le Frourion, la forteresse, heureux d'avoir ce renfort bienvenu pour faire face à une situation décidément critique. La partie perdue du décret aurait pu, bien sûr, nous apprendre encore diverses choses, mais ce serait faire preuve d'ingratitude à la tuque, à la fortuna epigraphica, que de se plaindre de cette perte provisoire ou définitive. D'autant plus qu'un nouveau document de Ramnonte vient apporter son lot de très précieuses informations. Il s'agit de ce décret encore inédit pour l'homme politique Aristeides de Lamptraï, dont nous pouvons faire ici un discret usage grâce à l'amicale générosité de l'inventeur. En effet, si la communauté de citoyens soldats stationnés à Ramnonte a tenu à honorer Aristeides. Ce n'est pas seulement en considération des services rendus à la cité dans un passé déjà relativement lointain, mais surtout pour l'action déployée au cours des deux années précédentes, entamant à la ligne 14, Paline, de nouveau. Une nouvelle et peut-être ultime phase de sa carrière, le personnage, élu d'abord au titre de stratège pour Éleusis et puis Éleusina, affronta dans ce secteur une situation des plus difficiles, puisque le roi Antigone se trouvait dès alors aux portes de l'Attique, ayant fait irruption, nous dit le texte, ayant fait irruption en Mégaride. Aristeides n'en réussit pas moins à assurer jusqu'au bout de son mandat annuel le salut de la forteresse qu'il maintint dans la souveraineté de la cité. Dès l'année suivante, selon toute apparence, en tout cas sous l'arconta de Ménéclès, qui est opportunément mentionné, ayant été élu stratège de la côte, epiten koran ten paralian, il put rendre cette fois les plus grands services à la population civile et militaire de Ramnonte, alors que la guerre sévissait toujours. Polemou ontos, vous voyez, ligne 24. Et c'est très probablement sous le successeur immédiat de Ménéclès, Nicias d'Otrunae, qu'il fut honoré par ce décret. Mais, et je conclus, ce qui fait l'intérêt exceptionnel de ce document, c'est la mission qui lui fut confiée par le peuple alors qu'il était encore stratège pour Éleusis. En tant que synèdre, c'est-à-dire membre du Conseil des Alliés, il s'acquitta d'une mission pleine de périls, ayant probablement à traverser les lignes ennemies, pour solliciter d'urgence l'aide du roi Areus de Sparte et des autres peuples alliés. Epiten boeteian, tout Areos. Et alors que, cette fois, Antigone avait pénétré en Attique même, Embeblekotos, etc. Donc, le traité conclu avec les Lacédémoniens, sous l'arconta de Peitidemos, vous vous en souvenez, existait déjà quand Aristeides exerça sa stratégie pour Éleusis. Cela met définitivement hors de doute que cet arconta, point de départ de la guerre de Crémonides, comme on l'a vu, doit se placer avant ceux de Ménéclès et de Nicias, qui sont les éponymes assurés des années 266-5, ainsi que la chose a été établie. Or, précisément, quelques chercheurs, dont notamment l'allemand Boris Dreyer, en déployant une érudition plus massive que réellement convaincante, ont tenté, naguère encore, tout récemment, d'établir le contraire, en défendant pour Peitidemos une date adoptée autrefois beaucoup plus tardive, 265-4, les mettant donc après le couple Ménéclès-Nicias. Comme si le fameux traité n'avait été ouvert en somme que la phase internationale et non pas le début de la guerre contre Antigone, qui pendant 2 ans aurait été en quelque sorte un conflit tout à fait local. Aujourd'hui donc, le décret encore inédit de Ramnonte pour Aristeides inflige donc à cette construction artificielle le plus cinglant démenti. C'est bien à l'été 268 que prend place la déclaration de guerre contre les ennemis de la liberté, selon la chronologie la plus couramment admise, 268 à la fin, en bas, que prend place donc la déclaration de guerre contre les ennemis de la liberté et de la démocratie. C'est en 267 que commencent les hostilités véritables et que s'enchaîne ensuite, je ne vais pas le dire ici, la suite des événements. Donc je suis heureux d'avoir pu, grâce à la générosité de M. Vassilis Petrakos, vous donner la primeur de ces nouvelles données historiques. Je vous remercie.